Non, nous étions dans un pays chaud, avec une particularité, ce qui est écrit sur la colline, là qu'on voit en arabe, qui veut dire, si ma mémoire est bonne, si j'ai bien appris ma leçon, oui, Dieu, le peuple, le roi. Dieu, le peuple, le roi. Vous l'avez compris, on n'est pas dans un pays chrétien. Par contre, il y a quand même une certaine soumission à l'autorité. Qu'est-ce qu'il en est pour nous? Ni Dieu ni maître. Je ne connaissais pas Auguste Blanqui avant de préparer ce message. C'est un socialiste révolutionnaire qui a créé un journal en 1880. Ce titre, hein, ni Dieu ni maître, est devenu un slogan pour les anarchistes, pour quelques mouvements ouvriers, et ça a été aussi mis en chanson par Léo Ferré. Un peu plus près, sous les pavés de la plage. Bon, généralement, ça concerne ceux qui commencent à avoir 60 ans ici, hein, parce que 68, c'est un peu loin. Peut-être que les jeunes l'ont entendu juste comme ça. Il est interdit d'interdire, c'est de là que ça vient. C'est le prémisse de la liberté individuelle qui donne les contours de notre société, la société française aujourd'hui, hein, en gros. Et en fait, quand on sait le départ de ce mouvement, c'est un peu particulier. Vous le connaissez de nom, Cohn-Bendit, Daniel de son prénom, ne comprenait pas le refus de l'administration qui était donné aux garçons d'aller rejoindre ou d'aller dans le bâtiment des filles. Le principe par-delà. Et ça a donné mai 68. Un peu plus récemment, ou un peu plus humoristiquement, Astérix, tout le monde connaît, le village gaulois qui résiste à l'envahisseur, qui ne se soumet pas à l'autorité romaine. Ils résistent. Bon, ils ont un truc, hein, de la potion magique. Mais ils résistent. Vous l'avez compris, enfin, j'espère du moins, ce matin, nous allons parler de, toujours dans la série, qui est Dieu pour moi? Dieu, les autorités et moi. Dieu, les autorités et moi. Dans cette démarche, il y a deux aspects qui peuvent nous interpeller. Le premier, le moi qui pose souci. Comment je me positionne? Moi, je suis enfant de Dieu, donc je n'obéis qu'à Dieu. Et l'autre aspect qu'on va découvrir, c'est que jusqu'où peut aller l'obéissance aux autorités? Est-ce qu'il y a une limite? Est-ce qu'on peut tout faire sous prétexte que l'autorité dit, bah, allez-y, faites-le. Pour nous aider, pour nous conduire un peu dans cette réflexion, je vous propose de prendre dans vos Bibles, je vais l'afficher aussi, l'Épître aux Romains, dans l'Épître aux Romains, le chapitre 13, les versets 1 à 7. L'Épître aux Romains, le chapitre 13, les versets 1 à 7. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et peut nuire et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi en cela que vous payez des impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Sept versets relativement dense. L'un de nos orateurs précédents avait dit, quand on commence à se pencher sur l'Épître aux Romains, il y a quand même quelque chose à ronger, et je n'aurais pas la prétention de regarder tous les thèmes qui peuvent être abordés au travers de ces 7 versets-là. Petite précision concernant le contexte. La rédaction est faite unanimement reconnue aux environs des 57-58, non pas 1957, mais bien 57. Hein. Cette épître a été écrite après que Jacques ait écrit la sienne et après que Paul ait écrit aux Galates et écrit ses 2 lettres aux Thessaloniciens et ses 2 lettres aux Corinthiens. Donc en fait, on est un tout petit peu avant que les évangiles et les autres épîtres aient été écrites. On est dans la Pax Romana, dans la paix romaine. L'Empire romain entoure quasiment la Méditerranée. Autrement dit, les déplacements sont sécurisés, les courriers arrivent relativement facilement. En fait, tout est fait pour qu'une information qui aille d'un point A à un point B, ça se passe correctement. Paul, néanmoins, est conscient de la qualité des dirigeants, puisqu'il dit dans son épître aux Romains, au chapitre 8, au verset 35, « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la distribution, la tribulation, pardon, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée ?» Donc il est conscient quand même que, malgré cette paix, il y a un gouvernement ou des gouvernants qui ne sont pas tous très clean, pour reprendre une expression d'aujourd'hui. Néron est un bon empereur. Malgré tout, dans une grande partie de son règne, cet homme-là a géré son empire d'une manière à peu près correcte. C'est ce qu'on peut voir dans le livre des Actes, au chapitre 35, quand les geôliers veulent relâcher Paul de la prison, ou bien en acte 18, quand Gallion refuse d'être un juge pour un différend uniquement à propos des lois juives et du différend qui oppose Paul et ses congénères. Un des commentateurs nous dit que c'est l'un des textes les plus commentés du Nouveau Testament. Un peu avant, dans la construction de l'Épître, on retrouve au chapitre 3 la justification du pécheur par la foi, la libération de l'emprise de la loi et la vie dans la liberté. Qu'est-ce que vient faire ce chapitre 13 à cet endroit ? Romains 12 commence par « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Les chapitres 12 et 13 vont venir nous apporter la mise en pratique, tant sur le plan communautaire que sur les relations avec les autorités. Déjà, la corruption existe depuis la chute. Dans le contexte d'aujourd'hui, ce passage a été utilisé par les nazis pour justifier auprès des chrétiens allemands l'arrestation et la déportation des juifs. On peut donc se servir des Écritures pour faire n'importe quoi. Il y a eu 2 attitudes possibles parmi ce peuple. Les réformés luthériens ont accepté, sont allés dans le sens de ce gouvernement-là. Une autre attitude, dont une qu'on connaît par la voix de Dietrich Bonhoeffer, qui se sont élevés pour affirmer, bien avant que le gouvernement nazi ne soit en place, le danger de cette rhétorique. L'autre aspect, c'est que aujourd'hui, dans le monde, il y a des régimes qui sont en mouvement. Je pense aux Syriens, aux Égyptiens, aux Libyens. C'est facile pour nous de prendre du recul et de dire « bon, ok, qu'est-ce que nous dit le texte ?» Dans le feu de la tempête, c'est plus compliqué de se dire « je vais me soumettre aux autorités ». Si on repense aux Égyptiens, on a quelques nouvelles, C'est vrai que pour eux, d'être sous la menace en permanence, ça peut paraître un peu compliqué. La corruption n'a pas changé. La corruption n'a absolument pas changé. Elle existait depuis la chute. Au temps de Paul, pour le gouvernement, Jérémie nous dit « Le cœur est tortué par-dessus tout, et il est méchant, qui peut le connaître ?» On a donc deux questions à se poser. Qu'est-ce que Paul a voulu dire? Et quelle incidence pour nous aujourd'hui? Regardons le texte. Le verset 1 nous dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Le tout porte la totalité de l'humanité. Psaume 103, verset 19, nous dit « L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toute chose. » Le tout porte sur la totalité de l'humanité. Soumise, le verbe utilisé. C'est un verbe un peu technique qui signifie l'obéissance absolue d'un soldat à son supérieur. Donc on est vraiment là dans une indication de la part de Paul. Les autorités sont instituées par Dieu. Gouvernement sur le citoyen, l'Église sur les croyants, les parents sur les enfants. Le Dieu est un Dieu d'ordre, si on regarde la construction, la création. Dieu est un Dieu d'ordre. Psaume 62, verset 12, pardon, il est dit, Dieu a dit une chose et il l'a répété, je l'ai entendu, la puissance est à Dieu. Daniel, de son côté, dans son livre, nous dit qu'il renverse les rois et il élève les rois. Cet aspect de l'autorité est renforcé par l'utilisation du pluriel et du singulier de Paul dans ce verset. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, autorités humaines. Il le reprend un peu plus loin, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. On est bien sûr de l'autorité humaine. Par contre, entre les deux, il y a, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, le singulier. La véritable autorité, c'est celle de Dieu, restituée, donnée, confiée aux autorités et au gouvernement. Il n'y a pas de, pour Dieu, il n'y a pas de séparation entre les deux. Joseph et Daniel, en leur temps, ont participé à des gouvernements. Néhémie, un laïc, a été appelé à reconstruire les murailles de Jérusalem. Pierre, dans sa première épître, nous dit exactement la même chose au chapitre 2. « Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. » Je répète, « car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, nous dit Pierre, craignez Dieu, honorez le roi. » Il n'y a aucune classification dans ce que nous dit Paul sur les autorités. Il ne s'agit pas de dire si on obéit plus, si elles sont compétentes ou incompétentes. Il ne s'agit pas de savoir si elles ont de la moralité, de l'immoralité ou de la moralité. Si elles sont cruelles ou si elles sont bonnes. Il n'y a aucune classification sur les autorités. Georgie Vince est un pasteur russe qui, pendant de nombreuses années avant la chute du communisme en Union soviétique, a été grandement persécuté pour sa foi avec beaucoup d'autres. Toutefois, il rapporte que, quelle qu'ait été la gravité des mesures répressives et des mauvais traitements qu'il subissait, les pasteurs et les chrétiens ont résolu d'obéir à toutes les lois justes et injustes, à l'exception des lois qui les forceraient à cesser d'adorer Dieu ou d'obéir à la parole. Notre vocation, c'est ce que nous dit Paul, consiste bien à dénoncer le péché, l'injustice, l'immoralité, l'impiété, avec courage. Surtout, dans la tendance permissive actuelle, mais dans la limite du Code civil. Tendance permissive, on connaissait les hommes, les femmes, le sexe masculin, le sexe féminin. En Australie, récemment, un nouveau genre est né. Le genre anonyme. Le genre, je sais pas qui je suis. Et cette démarche-là gagne tous les pays. On a dans certaines écoles où on a entendu le débat sur la théorie du genre. À partir d'un certain âge, je peux me déclarer fille. Nous sommes des citoyens, des chrétiens, dans une société impie. Et le moyen de montrer notre différence, c'est de témoigner de nos vies transformées. On peut regarder aussi, à propos d'autorité, comment notre Sauveur a réagi. Les circonstances sont un peu difficiles, mais j'ai utilisé une expression « Pilate fait le malin ». Pilate, à un moment donné, il est face à Christ et il fait un peu le malin. Il pose des questions à Christ et celui-ci reste muet. Alors Pilate s'énerve. Et il lui dit quelque chose du genre « Oh, mais tu sais pas qui je suis, moi ? J'ai le pouvoir de vie et de mort sur toi. » Christ répond « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Pilate comprend qu'il ne s'agit pas de César. Sinon, Christ aurait dit César directement. Toute autorité vient de Dieu, y compris pour Christ. Et l'attitude de Pilate change au verset suivant. Pilate chercha à le relâcher. Il a compris ce qui est en train de se passer. Il a compris qu'en fait, au-dessus de lui, quelqu'un lui a donné une autorité. Pour faire un peu le résumé de ce premier verset, c'est le socle. En fait, c'est le socle de la démonstration de Paul. Tout vient de Dieu, l'autorité vient de Dieu. Et on va voir au verset 2 comment cette autorité est exprimée. C'est pourquoi, dit ce verset, celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Conséquence logique, si on résiste à l'autorité, on résiste à Dieu. Et nous sommes doublement condamnables, nous, chrétiens. Parce que c'est un peu le principe de la double peine. Je suis condamné devant les tribunaux, ou je peux être condamné devant les tribunaux, et je suis aussi condamné devant Dieu. Délit, crime, prison, réparation. Il n'y a pas d'équivalence de peine. C'est pas parce que quelqu'un aura fait 10 ans de prison que, se présentant devant son Créateur, Dieu lui dira « C'est bon, j'efface l'éponge ». Non. Il n'y a qu'une seule condition pour que la peine soit effacée. Une seule. Une seule et unique. La repentance. La repentance. Et mettre sa confiance en Jésus seul. C'est une commutation de peine. Christ prend sur lui la peine que nous pouvons avoir. Un exemple dans l'Ancien Testament sur l'autorité voulue par Dieu, Moïse, dans le livre de l'Exode, au chapitre 18, Moïse se trouve confronté à une rébellion. Il a été institué par Dieu pour être à la fois le conducteur spirituel et le conducteur humain, création de société. Jéthro, à un moment, donné l'aide pour construire la société, pour juger. des actions des uns et des autres. Et voilà qu'il y a une rébellion. Dathan et Corée se rebellent avec 250 autres Israélites. Ils refusaient l'autorité de Dieu. La parole nous dit, il est écrit, la terre ouvrit la bouche. Mais nous avons des exceptions. Jusqu'à quel point peut-on obéir à l'autorité? Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce passage-là a été utilisé par les nazis pour commettre des crimes. Jusqu'où doit-on aller? Jusqu'où doit-on accepter? Quelle est la borne que nous pouvons avoir? Comment pouvons-nous nous calibrer? Dans le livre de l'Exode, un pharaon fou demande aux sages-femmes de tuer les jeunes Hébreux. Il est écrit, le roi d'Égypte parla ainsi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Sphira, l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Ou bien encore, Daniel, avec Nebuchadnezzar, roi de Babylone, ce roi-là exige d'élever, et là je prends un comparatif avec les poulets, parce que c'est un peu le sens du texte, d'élever Daniel et trois autres de ses compagnons pour que ils viennent plus tard au service du roi. Le texte dit exactement, le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Et il y a d'autres exemples. Dans les deux cas, dans les sages-femmes, comme pour Daniel, il y a une bénédiction. Elles ont été récompensées de leur résistance. Pierre et Jean, un peu plus tard dans le livre des Actes, eux aussi refusent de renier Christ en acte 4 et ils disent « il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Dans chacun des cas, il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas de banderole, il n'y a pas de « sous les pavés la plage ». Ils affirment calmement ce en quoi ils croient. Christ nous enseigne, dans l'évangile de Matthieu, à être prudent comme des serpents et simple comme des colombes. Ce qui signifie pour nous aujourd'hui que nous devons obéir aux autorités, si tant est que leur demande n'aille pas à l'encontre de l'obéissance à Dieu. Clairement, on obéit aux autorités, si tant est que ça n'aille pas à l'encontre de l'enseignement que Dieu nous donne. Dans le premier verset, le socle, l'autorité de Dieu. Le deuxième verset, les contours posent l'obéissance, la barrière à ne pas franchir. Le verset 3 nous dit, ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité, fais le bien et tu auras son approbation. Aucun gouvernement institué n'édifie le mal comme loi. Il n'y a pas sur la terre un gouvernement qui dise « Nous allons mettre les gentils ou les bons en prison, les condamner et récompenser ceux qui font le mal. » Même dans les régimes totalitaires. Ça n'exclut pas la corruption, ce sont deux choses différentes. Mais aucun système, aucun pays, aucun État n'est bâti sur le mal récompensé et le bien en prison. On constate même que dans les pays totalitaires, les taux de criminalité sont inférieurs aux pays dits démocratiques. Paul exprime ici exactement cela. On se rappelle aussi que Christ a été échangé contre un meurtrier, Barabbas. Il était donc en prison. Début de la lettre aux Romains, au chapitre 2, il est écrit « Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. » Autrement dit, On peut avoir, même si on ne connaît pas l'Écriture, consciemment ou inconsciemment, l'expression du bien ou du mal. Robert Haldane est un homme de Dieu écossais. David n'est pas là aujourd'hui. Dans son commentaire sur l'Épître aux Romains, il dit « L'institution du gouvernement civil sert à dispenser la miséricorde. Et elle est si indispensable que dès qu'à l'instant où elle cesse d'exister sous une forme, elle s'établit de nouveau sous une autre. Depuis la chute, moment où la domination d'une partie de la race humaine sur une autre est entrée immédiatement en existence, le monde connaît un tel état de corruption et de dépravation que sans l'obstacle puissant que le gouvernement civil oppose aux passions égoïstes et malveillantes des hommes, il vaudrait mieux pour nous vivre parmi les bêtes de la forêt qu'au sein de la société humaine. Dès que ces entraves sont éliminées, l'homme se montre sous son vrai jour. Lorsqu'il n'y avait pas de roi en Israël et que chacun faisait ce qui lui semblait bon, nous voyons dans les trois derniers chapitres du livre des Juges quelles ont été les terribles conséquences. Paul lui-même n'a pas craint de se mettre sous l'autorité romaine, pour être jugé en appliquant ce qu'il a écrit. Dieu institue les autorités, donne des consignes pour ne pas y passer, ne pas passer au travers. Au verset 4, nous allons voir le magistrat. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. C'est en quelque sorte la feuille de route du magistrat. J'ai, en préparant ça et en me rendant compte un peu de la portée de ce que Paul nous laissait, j'avais comme une douceur dans la bouche. Je me disais, les magistrats, les juges sont des serviteurs de Dieu, mais ils ne le savent pas. Ils sont au service de l'autorité divine, mais ils ne le connaissent pas. Alors le plaisir, c'est de se dire, je ne suis pas réprimandé, bien entendu. L'épée est celle qui est mention dans l'évangile de Matthieu, Gethsémané, quand Pierre, un petit peu véhément, là, comme ça, commence à prendre son épée et à couper l'oreille d'un serviteur, Christ lui dit, ceux qui prennent l'épée mourront par l'épée, c'est l'épée de la justice. Au terme de ce verset, Paul a dépeint la situation. L'autorité de Dieu, les règles, les magistrats restent un acteur à mettre en place soi-même. Verset 5 nous dit « Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. » C'est là que nous entrons en jeu. Comment nous soumettre à l'autorité? La crainte de la punition? La peur du gendarme? Ou bien mettre en œuvre notre conscience? Quand nous serons jugés, comment réagirons-nous quand il nous sera montré les opportunités que nous aurons manquées par manque d'humilité, de piété, d'engagement, d'obéissance? Par motif de conscience, peut se traduire par un examen personnel. J'aime la vitesse. J'ai aimé la vitesse, j'ai aimé rouler vite. Et en 2003, j'ai été pris à la jumelle. Je suis passé devant un tribunal et j'ai laissé mon permis. 3 mois de suspension. C'est vrai que c'est impressionnant. Une autorité comme ça qui vient et qui vous dit « Monsieur, voilà, vous n'avez pas respecté les règles ». L'examen de la conscience, ce n'est pas de se dire « j'ai la peur du flash » ou « j'ai la peur du gendarme », pour mon cas. C'est de me dire « je prends en compte la sécurité des autres ». Alors, je vous donne cet exemple de la vitesse parce qu'il m'est arrivé. Chacun peut se retrouver face à soi-même pour se dire à quel moment je n'ai pas pris en compte l'autre. Mieux vaut prendre conscience que de se retrouver sous la contrainte. C'est l'invitation de Paul et on retrouve la douceur de Paul. Il n'aime pas contraindre, il préfère amener la réflexion. Il continue en disant « C'est pour cela aussi que vous payez des impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. » Le mot « ministre » là utilisé signifie d'occuper une fonction publique à ses propres frais, un peu comme les notaires. J'ai la charge d'eux pour l'État. Les impôts. Joseph en a imposé pour sauver l'Égypte de la famine, avec tout le succès qu'on lui connaît. Salomon a lui-même imposé des impôts pour la construction du temple. Et d'ailleurs, leur importance fut telle que ça créa le schisme entre le royaume du Nord et le royaume du Sud. C'est voulu par Dieu. Dans le livre de Malachie, Dieu est en colère contre son peuple parce qu'il refuse de payer la dîme. Jésus lui-même s'est acquitté de l'impôt. Matthieu 17, verset 25, il est écrit « Les rois de la terre, donc c'est Dieu, c'est Jésus qui pose la question, les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts, de leurs fils ou des étrangers ?» Pierre lui répond « Des étrangers ». Et Jésus lui répondit « Les fils en sont donc exempts, mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stater, prends-le et donne-le-lui pour moi et pour toi, autrement dit, acquitte-toi de l'impôt pour l'année, pour toi et pour moi. » Justin, le martyr, théologien, père de l'Église du IIe siècle, écrit « Tribut et impôts, nous nous efforçons, nous chrétiens, partout de les payer, avant tout le monde, à ceux que vous chargez de les collecter, comme Jésus nous en a instruits. Voilà pourquoi nous n'adorons que Dieu seul. Mais pour le reste, nous vous obéissons avec joie, car nous vous reconnaissons comme roi et chef des hommes, et nous demandons dans nos prières qu'avec la puissance souveraine, on puisse aussi trouver en vous la sagesse et la raison. » Les chrétiens de l'Église primitive respectaient l'Empire romain avant qu'ils ne deviennent chrétiens, que cet empire ne devienne chrétien. Il ne s'agit pas pour autant de donner un blanc-seing, de donner un chèque en blanc aux ministres de Dieu, aux magistrats. Dans le psaume 94, verset 10, il est dit « Le Seigneur châtie les nations ». Au psaume 98, il est écrit « Il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité ». L'idée est bien de l'obéissance tout en apportant la démonstration, comme nous l'a dit ce Justin le Martyr, tout en apportant un témoignage. Enfin, au verset 7, « Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez les tributs, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. » Paul termine ce passage de la même manière que Christ, à un moment donné, un petit peu titillé, excusez-moi l'expression, par les pharisiens. Les pharisiens lui demandent « Mais à qui on doit payer l'impôt ? Vous voulez tendre un piège ?» Et Christ répond au chapitre 22 de l'évangile de Matthieu, au verset 19 « Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. » Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda « De qui sont cette effigie et cette inscription ?»« De César, lui répondirent-ils. » Alors il leur dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » L'autorité temporelle n'a pas de pouvoir sur l'autorité spirituel. Par contre, nous devons la respecter. Nous devons nous acquitter des sommes nécessaires pour le fonctionnement de l'État, de la même manière que les Israélites versaient des dîmes pour l'entretien des Lévites. Cela aussi nous donne une attitude face aux autorités. Un chrétien anonyme du IIe siècle a écrit « Car les chrétiens se distinguent du reste des hommes ni par leur terre, ni par leur langue, ni par leurs vêtements. Ils n'habitent pas de ville qui leur soit propre. Ils n'usent d'aucun dialecte. Leur genre de vie n'a rien de remarquable. Ce ne sont pas non les spéculations d'une curiosité indiscrète qui leur ont fait acquérir leur connaissance, et ils ne sont pas non plus, comme quelques-uns, les champions d'une doctrine simplement humaine. Ils habitent des cités grecques ou barbares, chacun selon son destin. Ils se conforment aux usages locaux en ce qui concerne le vêtement, la nourriture et le reste du mode de vie. Mais leur vie communautaire a manifestement quelque chose d'étonnant et de proprement paradoxal. Chacun réside dans sa patrie, comme le ferait un étranger. Dit citoyen, il possède tous les avantages, et de l'étranger, il supporte toutes les charges. Toute terre étrangère est sa patrie, et toute patrie lui est étrangère. Comme tout le monde, le chrétien se marie. Il a des enfants. Mais il n'abandonne pas les nouveau-nés. Il fait table commune, mais ne partage pas son épouse. La chair est sa demeure, mais il ne vit pas selon la chair. Son existence se passe sur la terre, mais il est citoyen du ciel. Il obéit aux lois établies, mais par le genre de vie qui lui est propre, il s'élève au-dessus de ses lois. Il aime tous les hommes et tous les hommes le persécutent. Il l'ignore et il le condamne, mais à mort, il gagne la vie. Il est pauvre et il donne à beaucoup la richesse. Il manque de tout et il regorge de tous les biens. Il est méprisé et se méprise sa gloire. Il est calomnié, c'est lui rendre justice. Il est insulté et il bénit. Il est outragé, il vénère qui l'outrage, il fait le bien. Il est châtié comme le serait un scélérat, le châtiment et sa joie, c'est naître à la vie. Notre attitude, notre soumission, et ce sera ma conclusion, nous donne un moyen, un motif de témoigner d'une vie transformée, de notre soumission à Dieu, notre vocation, et de permettre aux hommes d'être changés, non pas de changer la société. Elle reste sous le contrôle du Père. Paul termine le chapitre 13 par ces versets 12 à 14. La nuit est avancé, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen.